Dilettantisme.
Le lendemain soir, nous invita Magli à faire une visite à Pilade. Encore que les nouveaux habitués du bar fussent revenus au veston et à la cravate, la présence de notre hôte avec son costume trois pièces bleues à fines raies blanches et sa chemise immaculée, la cravate fixée par une épingle d'or, provoqua une certaine sensation. Par chance, à 6 heures de l'après-midi, Pilade était assez dépeuplé. Aglié décontenança Pilade en commandant un cognac de marque. Il en avait naturellement, mais qui trônait sur les étagères derrière le comptoir, intact, peut-être depuis des années. Aglié parlait en observant la liqueur à contre-jour, pour ensuite la réchauffer dans ses mains, exhibant à ses manchettes des boutons d'or de style vaguement égyptien. Nous lui montrâmes la liste en disant que nous l'avions établie à partir de manuscrits des diaboliques.
Que les Templiers fussent liés aux anciennes loges des maîtres maçons qui se sont formés pendant la construction du temple de Salomon, c'est certain. Comme il est certain que depuis lors, ses associés se référaient au sacrifice de l'architecte du temple, Hiram, victime d'un mystérieux assassinat, et qu'il se vouait à sa vengeance. Après la persécution, beaucoup des chevaliers du temple confluèrent certainement dans ces confréries d'artisans, fusionnant le mythe de la vengeance d'Hiram avec celui de la vengeance de Jacques de Molay. Au XVIIIe siècle, à Londres, il existait des loges d'artisans maçons véritables, les prétendues loges opératives, mais graduellement certains gentilshommes désœuvrés, encore que fort respectables, attirés par leur rite traditionnel, rivalisèrent pour en faire partie. Ainsi, la maçonnerie opérative, histoire de véritables artisans-maçons, s'est-elle transformée en maçonnerie spéculative, histoire d'artisans-maçons symboliques. Dans ce climat, un certain Desaguliers, vulgarisateur de Newton, influence un pasteur protestant, Anderson, qui rédige les constitutions d'une loge de frères maçons d'inspiration déiste et commence à parler des confréries maçonniques comme de corporations qui remontent à 4000 ans, au fondateur du temple de Salomon. Voilà les raisons de la mascarade maçonnique, le tablier, l'équerre, le marteau. Pourtant, c'est peut-être précisément pour cela que la maçonnerie devient à la mode, attire les nobles, pour les arbres généalogiques qu'elle laisse entrevoir. Elle plaît encore davantage aux bourgeois qui non seulement peuvent se réunir sur un pied d'égalité avec les nobles, mais sont même autorisés à porter l'épée de cérémonie. Misère du monde moderne qui naît. Les nobles ont besoin d'un milieu où entrer en contact avec les nouveaux producteurs de capital. Les autres, vous pensez bien, cherchent une légitimation. Mais il semble que les Templiers apparaissent plus tard. Le premier qui a établi un rapport direct avec les Templiers est Ramsay, dont cependant j'aimerais mieux ne point parler. Je soupçonne personnellement qu'il était inspiré par les Jésuites. C'est de sa prédication que naît l'aile écossaise de la maçonnerie. Écossaise en quel sens ? Le rite écossais est une invention franco-allemande. La maçonnerie londonienne avait institué les 3 degrés, apprenti, compagnon et maître. La maçonnerie écossaise multiplie les grades, parce que multiplier les grades, cela signifie multiplier les niveaux d'initiation et de secret. Les Français, qui sont fat par nature, en sont fous. Mais quel secret ? Aucun, c'est évident. S'il y avait eu un secret, autrement dit, si eux l'avaient possédé, sa complexité eût justifié la complexité des grades d'initiation. Ramsay, en revanche, multiplie les grades pour faire accroire qu'il y a un secret. Vous pouvez vous imaginer le frémissement de ces braves boutiquiers qui pouvaient enfin devenir des agents de la vengeance.
Aglié nous fut prodigue en racontant maçonnique. Et tout en parlant, comme il en avait l'habitude, il passait insensiblement à l'évocation à la première personne.
Désormais, à cette époque en France, on écrivait des couplets sur la nouvelle mode des frimaçons. Les loges se multipliaient et y circulaient archevêques, moines, marquis et marchands, et les membres de la maison royale devenaient grands maîtres. Dans la stricte observance templière de ce patibulaire von Hund, entraient Goethe, Lessing, Mozart, Voltaire. Des loges surgissaient parmi les militaires. Dans les régiments, on complotait pour venger Hiram et on discutait de la révolution imminente. Et pour les autres, la maçonnerie était une société de plaisir, un club, un statut symbole. On y trouvait de tout, Cagliostro, Mesmer, Casanova. Le baron d'Holbach, d'Alembert. Encyclopédistes et alchimistes, libertins et hermétistes. Et on le vit quand éclata la révolution, des membres d'une même loge se trouvèrent divisés, et il sembla que la grande fraternité entrait à jamais en crise. N'y avait-il pas une opposition entre Grand Orient et loge écossaise?
En parole, un exemple, dans la loge des sept sœurs était entré Franklin, qui naturellement visait à sa transformation laïque. Son seul intérêt, c'était de soutenir sa révolution américaine. Mais en même temps, un des grands maîtres était le comte de Milly, qui cherchait l'élixir de longue vie. Comme c'était un imbécile, en faisant ses expérimentations, il s'est empoisonné et il est mort. Par ailleurs, pensez à Cagliostro. D'une part, il inventait les rites égyptiens. D'autre part, il était impliqué dans l'affaire du collier de la reine, un scandale ourdi par les nouvelles classes dirigeantes pour discréditer l'ancien régime. Cagliostro était de la partie, vous comprenez. Essayez d'imaginer quelle espèce de gens il fallait côtoyer.
Ça a dû être dur, dit Belbeau avec compréhension.
Mais qui sont-ils, demandai-je, ces barons, von Hund, qui cherchent les supérieurs inconnus?
Autour de la farce bourgeoise étaient apparus des groupes aux intentions fort différentes, qui, pour faire des adeptes, pouvaient s'identifier avec les loges maçonniques, mais poursuivaient des fins plus initiatiques. C'est alors qu'a lieu la discussion sur les supérieurs inconnus. Mais malheureusement, von Hund n'était pas une personne sérieuse. Au début, il fait croire aux adeptes que les supérieurs inconnus sont les Stuarts. Ensuite, il établit que le but de l'ordre est de racheter les biens originels des Templiers. Et il ratisse des fonds de tous côtés. N'en trouvant pas assez, il tombe dans les mains d'un certain Stark, qui disait avoir reçu des vrais supérieurs inconnus, qui se trouvaient à Saint-Pétersbourg, le secret de la fabrication de l'or. Autour de von Hund et de Stark se précipitent Théosophe, alchimiste à Tendelonce, rosicrucien de la dernière heure, et tous ensemble, ils élisent grand maître un gentilhomme des plus intègres, le duc de Brunswick, lequel comprend aussitôt qu'il est au milieu d'une très mauvaise compagnie. Un des membres de l'observance, le landgrave de Hesse, fait appel au comte de Saint-Germain en croyant que ce gentilhomme pourrait produire de l'or pour lui. Enfin, glissons, à cette époque, il fallait seconder les caprices des puissants. Mais par-dessus le marché, il se croit Saint-Pierre. Je vous assure qu'une fois Lavater, qui était l'hôte du landgrave, dut faire une scène à la duchesse de Devonshire, laquelle se prenait pour Marie-Madeleine.
Mais c'est Villermoz, c'est Martine de Pasquali, qui fonde une secte après l'autre.
Pasquali était un aventurier. Il pratiquait des opérations théurgiques dans une des chambres secrètes. Les esprits angéliques se montraient à lui sous la forme de passages lumineux et de caractères hiéroglyphiques. Villermoz l'avait pris au sérieux parce que c'était un enthousiaste, honnête, quoique ingénu. Il était fasciné par l'alchimie. Il pensait à un grand œuvre auquel les élus auraient dû se consacrer afin de découvrir le point d'alliance des six métaux nobles en étudiant les mesures enfermées dans les six lettres du premier nom de Dieu que Salomon avait fait connaître à ses élus. Et alors, Villermoz fonde de nombreuses obédiences et entre dans de nombreuses loges à la fois, selon l'usage de ces temps-là, toujours en quête d'une révélation définitive, craignant qu'elle ne se nichât toujours ailleurs, comme en vérité cela se passe, et même c'est peut-être là l'unique vérité. Et ainsi s'unit-il aux élus Cohen de Pasquali. Mais en 1772, Pasquali disparaît. Il part pour Saint-Domingue, laisse tout aller à volo. Pourquoi s'éclipse-t-il? Je soupçonne qu'il était entré en possession de quelques secrets et qu'il n'avait pas voulu le partager. En tout cas, paix à son âme, il se volatilise dans ce continent, homme obscur, comme il l'avait mérité. Et Villermoz? En ces années-là, nous étions tous secoués par la mort de Swedenborg. Un homme qui eût pu apprendre beaucoup de choses à l'Occident malade, si l'Occident lui avait prêté l'oreille. Cependant, le siècle courait désormais vers la folie révolutionnaire pour suivre les ambitions du tiers-État. Or, c'est dans ces années que Villermoz entend parler de la stricte observance templière de von Hund, et il en reste fasciné. On lui avait dit qu'un templier qui se déclare tel, je veux dire en fondant une association publique, n'est pas un templier. Mais le 18e était une époque de grande crédulité. Villermoz tente avec von Hund les différentes alliances dont on parle dans votre liste, jusqu'au moment où von Hund est démasqué, à savoir, on découvre que c'était un de ces personnages qui s'enfuit avec la caisse, et que le duc de Brunswick l'expulse de l'organisation.